Vous écoutez RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
On est ravis de vous retrouver. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue en direct jusqu'à midi et demi sur RTL. RTL vous régale. Avec la troupe habituelle ce matin, à ma gauche, Nathalie Elal.
Bonjour, bonjour à tous.
Dans ce studio, Jean-Sébastien Petit-Demange. Et je devrais dire, je ne sais même pas si on peut parler de studio encore, c'est devenu, c'est officiel, le plus grand garde-manger de France, parce qu'aujourd'hui, 800 kilos de fruits, des pâtisseries qui viennent du monde entier, de la baguette à la saucisse de Morteau. Je ne m'y retrouve pas dans ce garde-manger, autant vous le dire, d'autant que tout ce que nous avons sur cette table n'a rien à voir
rien du tout.
Et avec le couscous.
Justement, le couscous arrive.
Voilà.
Bonjour, bonjour,
bonjour à tous, soyez les bienvenus. On avait envie de vous parler de cuisine cet été parce qu'on sait que c'est vraiment un dénominateur commun, on sait que c'est quelque chose qui vous passionne, même si vous n'êtes pas forcément cuisinier, si vous ne cuisinez pas à la maison, on aime parler de... Bouffe, le mot est lâché.
Voilà.
C'est exactement ça. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez intervenir dans cette émission, c'est simple. Vous appelez le standard RTL au 3210 ou vous envoyez votre question ou votre réflexion par SMS au 64 900 avec le mot régal. Alors, vous savez que dans cette émission, si vous arrivez pour la première fois ce matin, on aime bien jouer avec des associations. Et celle du jour est assez douce. Cerise et vanille. On vous en parle dans quelques instants car... Sur des paroles de Jean-Baptiste Clément, une musique d'Antoine Renard.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, une merle moqueur.
Marco et ses parents sont dans la salle, donc il est un peu ému. Je comprends ça, Marco étant notre réalisateur. Deux produits qu'on a tous souvent chez nous.
Parce que le truc, c'est que là, t'as lancé de musique, mais on ne sait pas ce que c'est.
Bah, le temps des cerises.
Oui, mais là, elle ne l'a pas encore dit, la dame.
Si, elle l'a dit. Bien sûr.
Ah oui, ça y est.
Bah, elle a commencé par ça.
Ah, c'est vrai.
Bien sûr. La cerise.
La cerise.
Il était moins d'eux qu'on soit hors saison. Du coup, on en a profité. Ouais, on s'est dit, voilà, on va y aller. La cerise, c'est encore un truc de saison pour... Quelques jours à peine.
Oui, une petite dizaine de jours. Elle va se tirer bientôt, la cerise, c'est vrai. Hein, c'est un peu la fin de saison. Alors, il y a une belle association, hein, cette cerise avec cette vanille, parce que ce sont des saveurs absolument complémentaires. Pourquoi ? Bah, la cerise, son noyau, il a un petit goût d'amande, même un goût d'amande très marqué. Et puis la vanille, comme celle de Tahiti, par exemple, des notes anisées qui vont évoquer les fleurs. Et d'ailleurs, la cerise... appelle les épices. Et la vanille, qui est à la fois un fruit, est aussi évidemment une épice.
Ça a beau appeler les épices, moi quand on me dit cerise, je pense clafoutis, hein, excusez-moi. Mais
évidemment, impossible d'évoquer la cerise sans parler du clafoutis. Alors le mot clafoutis, figurez-vous qu'il a une origine particulière. Ça vient du vieux français clofir, qui veut dire clouer, et de foutre, qui veut dire mettre, enfoncer, en référence aux cerises qui vont trouer la pâte. Et en Auvergne, comment ?
Vous passez une bonne matinée ? En Auvergne, on préférait le mot milliard.
On préférait le mot milliard. Milliard, pas milliard.
Milliard.
Non, non,
milliard.
C'est pas l'euro-million. Hein. Et dans le Berry, on l'appelait le galifouti.
Le galifouti.
Oui, et on en préparait déjà au Moyen-Âge.
Voilà. Alors, on parlait de cette chanson, Le temps des cerises.
Sur des paroles de Jean-Baptiste Clément et une musique d'Antoine Renard.
Des décors de Roger Hart, des costumes de Donald Cardwell. Le
temps des cerises. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'image de cette chanson révolutionnaire de 1871, La Commune de Paris. Néanmoins, Jean-Baptiste Clément l'avait écrite comme une chanson d'amour. Alors Juliette Gréco a dit beaucoup plus tard, c'est une chanson d'amour, donc c'est un chant révolutionnaire, c'est un chant révolutionnaire, donc c'est une chanson d'amour. En attendant, le temps des cerises compte parmi ces chansons qui dans notre histoire ont fait évidemment l'histoire, et c'est plus qu'un symbole. Parce que la couleur rouge des cerises, comme le drapeau des insurgés, le sang versé, et puis ce fruit éphémère, autant que l'amour perdu par l'auteur, parce qu'il s'agissait de cela au départ.
C'est bien, beau.
Je peux chialer.
C'est beau comme un clafoutis.
Ouais. C'est un truc de dingue.
Sur des paroles de Jean-Baptiste Clément.
Nous chanterons le temps des cerises.
Jean-Seb, la légende raconte que durant leur migration, les oiseaux laissaient tomber en fait des noyaux tout le long de leur envolée. Et c'est ainsi que les cerisiers se sont retrouvés à l'état sauvage chez nous en France.
Et exactement, et c'est arrivé comme ça, hein, au fur et à mesure
ça
de
vient
la géographie.
Plutôt, oui, alors il paraît que ça viendrait quand même, cette cerise, à la fois d'Europe et d'Asie. Et son nom viendrait de celui d'une ville d'Asie mineure qui s'appelait Cérasonte, où le général romain Lucullus l'aurait découverte en 74 avant notre ère. On a même trouvé, paraît-il, en Grèce, en Italie et en Gaule, des traces fossilisées de cerisiers datant du néolithique. Et c'est de ces derniers qu'on appelait les merisiers que sont issus les cerises douces, les bigarreaux et les guignes. Parce que Lucullus avait évidemment rapporté des plants de fruits. Alors les cerisiers vont abonder dans les jardins du Moyen-Âge, des plus simples aux plus aristocratiques. Et puis à partir de la Renaissance, on va commencer à sélectionner les variétés, la culture se développe. Mais je voulais vous dire une chose, au-delà de l'histoire, la cerise, ça a une vraie dimension symbolique. Parce que dans la Bible, elle représente le sang du Rédempteur en raison de sa couleur. Et puis, elle est aussi associée aux bonnes œuvres par la douceur de sa chair. Il y a une très jolie chose dans l'évangile de Matthieu. Lors du repos pendant la fuite en Égypte, un cerisier plie sa branche jusqu'à l'enfant Jésus pour qu'il puisse se nourrir de ses fruits. Donc la cerise, c'est vraiment le fruit du paradis, l'antidote à la pomme et l'emblème de la volupté et de la sensualité.
Oui, je l'avais senti. Vous avez vu mon casque de moto ? Ce sont des cerises, en fait, sur mon casque de moto.
Ça, c'est parce vous êtes toujours raccord.
Vous customisez tous les jours. Hein.
Mais là, on est plus dans la dimension boîte de nuit d'Ibiza, si vous voyez, de laquelle
ridicule,
je parle.
Avec les saucisses l'autre jour, c'était ridicule, votre casque.
Allez, parmi les conquis voilà. Des cerises, on compte deux personnages assez illustres.
Louis XV, qui raffolait des cerises au point d'en encourager son développement, favorisant la découverte de plein de nouvelles variétés. C'est à lui qu'on doit l'optimisation de la culture du cerisier moderne. Il y en avait plein, le jardin royal. De Versailles. Et puis il y a Napoléon, parce que Napoléon a même donné son nom à une variété de cerises. Et puis il y a un autre conquis, à savoir Yves Montand, parce que sur des paroles de Jean-Baptiste Clément,
nous chanterons.
Allez, c'est RTL vous régale, c'est parti en direct jusqu'à midi et demi. La cerise, la vanille, on vous dira tout sur cette association qui fonctionne plutôt pas mal. Nous partirons pour le Japon, nous irons dans le Nord. On vous parlera de maroilles ce matin, il y aura du fromage au menu. L'histoire d'un plat, Nathalie.
D'une sauce, l'aïoli.
L'aïoli aujourd'hui au menu, c'est dans RTL vous régale et ça dure tout l'été, 11h, midi et demi sur RTL.
11h, 12h30,
RTL vous régale.
Car la cuisine, c'est aussi beaucoup de philosophie. Il faut le dire. Okay. Hier, Jean-Sébastien citait Confucius. Aujourd'hui, Goethe a dit...
Ce sont les enfants et les oiseaux qu'il faut interroger sur le goût des cerises et des fraises, signifiant par là le caractère ancré dans la jeunesse de ces deux fruits.
C'est très joli.
Mais oui.
C'est vrai que ce sont des madeleines de Proust un peu. Hein.
Exactement, parce que ce soit dans la cerise dite Sassou, dans le Pays Basque, ou dans la Montmorency, ou dans la cerise de Fougerolles, qui a fait toute mon enfance, parce que je suis Vosgien, la Haute-Saône est tout en dessous, ces petites guignes qui donnent le guignolet, sont toute mon enfance.
Avant d'être le guignolo. Alors, Nathalie, la cerise en cuisine...
Mais vous savez que c'est drôle, ça.
Oui, ça m'arrive. Elle est délicieuse et parfois, c'est assez surprenant. On peut la préparer un peu comme les cornichons.
Oui, c'est un condiment, et bien sûr, à l'eau de vie, évidemment, avec de la Montmorency. Vous pouvez aussi la flamber et la caraméliser, par exemple, sur une glace à la vanille. Ça s'appelle un jubilé. Alors ça, c'est une recette très ancienne qu'on trouve malheureusement presque plus. C'était une recette d'Escoffier qui a été créée pour le jubilé d'or de la reine Victoria. Et alors, elle se composait à l'origine de cerises cuites dans une sauce épaisse et sucrée, additionnée de kirsch ou même de cognac, ça marche aussi, et flambé. Et dans une version encore plus tardive, on déposait les cerises enflammées sur de la crème glacée à la vanille.
C'est le cirque du soleil, le truc. Hein, c'est...
Non mais c'est excellent, excellent. Il y a une autre chose aussi, je voulais vous dire, à propos du clafoutis, ça c'est très important. À l'origine, il se faisait avec des merises, c'est-à-dire une variété de cerises locales qu'on trouvait exclusivement dans le Limousin. Des petites cerises très fragiles, dont on ne pouvait pas enlever les noyaux, très juteuses, très foncées, très charnues. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, dans la vraie recette, enlever les noyaux des cerises, tout simplement parce que personne ne s'embêtait à le faire avec des merises.
Vous qui cuisinez beaucoup, madame, et là, la reine des ménagères,
oui.
Et ça se mariait bien avec quoi, la cerise ? Ça marche, alors je sais, sur le foie gras, par exemple.
Alors, génial avec du foie gras de canard en tranche dans une poêle chaude. Vous l'assaisonnez de sel et de poivre, vous laissez dorer tout ça 30 secondes, vous retournez, vous ajoutez alors un petit peu de vinaigre vinaigre balsamique, des cerises au sirop et vous laissez bouillir un petit peu jusqu'à ce que la sauce soit bien sirupeuse. Vous servez ça, si vous voulez, avec des tranches de pain de campagne toastées. Moi, j'ai un souvenir, mais vraiment incomparable, il y a des années, hein, ça remonte à il y a longtemps, de cerises et de foie gras dans un restaurant qui s'appelait la Villa Florentine à Lyon. Et je pense que quand je suis remontée dans le TGV, il m'aurait fallu un treuil, voyez-vous. Cerises et agneaux.
Tout en délicatesse.
Oui, oui.
Cerises et agneaux.
J'assume.
Avec cerises des cerises un peu aigres.
Oui, alors ça, c'est un peu des cerises effectivement trop acides pour qu'on les mange sur l'arbre, mais c'est délicieux en cuisine. Par exemple, le riz pilaf à l'agneau, accompagné d'oignons, de safran, d'amandes, de grenades, de feta, de menthe, de persil et de pistache. C'est un joyau de la cuisine turque. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, l'association de la cerise avec l'agneau, ça mériterait d'être aussi populaire que l'association de l'agneau et de l'abricot, je vous le dis en passant.
On en parlait, cerises et chocolat, c'est déjà un classique.
La forêt noire.
Oui.
Évidemment, la forêt noire. Schwarzwälder Kirschtorte, combinaison gagnante avec plein de crème fouettée. Là aussi, il faut un treuil. Cerises et amandes.
Und Muskatnuss.
Cerise et amande, parce que le noyau de la cerise, ça a le même goût que la plupart des amandes. Pensez à l'amaretto, évidemment. Cerise et fromage de chèvre, ça marche aussi. Cerise et noisette, alors ça, c'est un peu plus inattendu. Par exemple, dans un muesli, pour changer un peu le matin, une poignée de noisettes et de griottes séchées. Parce que les griottes séchées possèdent une saveur piquante, à la fois acide et sucrée, avec des notes de tabac. Et voilà. Ça marche.
Mettez muesli, vous, le matin?
Non, pas trop.
Ah oui, c'est ça.
Je suis figue.
On a un problème dans cette émission, je ne vous le cache pas, c'est que notre diététicien s'appelle Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bon,
c'est à lui que revient la mission de nous parler des bienfaits de la cerise.
Mais oui, parce que quand on évite de la manger avec du foie gras, avec de l'agneau dans une forêt noire...
C'est diététique.
Parce que là, c'est vrai que bon, c'est difficile à défendre les bienfaits diététiques de la cerise dans la forêt noire. Je vous rappelle que la forêt noire ne fait pas partie du plan national de santé, hein, avec les 5 fruits et légumes par jour. Mais la cerise, c'est le plus sucré des fruits rouges, mais c'est aussi le plus énergétique. Elle est bien pourvue en minéraux. C'est un fruit qui est juteux, qui est rafraîchissant, qui est raisonnable d'un point de vue calorique. Et son éventail vitaminique est extrêmement large. Il y a de la vitamine C, il y a de la provitamine A, il y a plein d'autres choses comme ça. Il y a de la vitamine B. Enfin, ça fait partie. C'est un dépuratif également. Et puis alors, on peut aussi se servir des queues de cerises.
Oui, c'est ça. La cerise n'est pas le seul truc comestible sur l'arbre.
Voilà, il y a aussi...
N'essayez pas le tronc. Hein. C'est très dangereux. Mais c'est vrai qu'en phytothérapie, par exemple...
On fait des tisanes de queues de cerises comme dépuratif et comme diurétique.
Voilà. Des cerises qui, généralement, doivent être cueillies mûres, puisque, généralement, elles cessent de mûrir après la récolte.
Elles cessent toujours de mûrir après la récolte. Ça, c'est vrai.
Voilà. On les choisit comment? De préférence en bon état, c'est-à-dire charnues, fermes?
Oui, luisantes, bien colorées, avec des queues qui ne soient pas desséchées.
Laissez de côté les cerises dures. Petites et plates. On en voit beaucoup dans les supermarchés. Ça arrive vraiment. C'est important de bien choisir vos produits.
Nathalie, hein,
non, mais je vous assure que c'est vrai. C'est aussi un de nos boulots dans cette émission, c'est de vous aider à choisir vos produits, quels qu'ils soient, sur les étals. Et pour les conserver, ça se passe comment?
C'est fragile. En fait, elles ne se conservent que 3 jours à température ambiante et 5 jours dans le bas du frigo. Mais en fait, tout dépend de la saison. Parce que si le printemps a été pluvieux, elles vont mal se garder. Mais si à l'inverse, le temps est beau pendant la maturation, là, elles vont se conserver plus longtemps. Une chose importante aussi, dans le frigo ou pas, il faut éloigner absolument les cerises des aliments qui ont un parfum très prononcé parce qu'elles absorbent facilement les odeurs et elles prennent un goût désagréable. Donc, vous pouvez les mettre à la rigueur dans un sac en plastique perforé.
On fait un million de trucs à base de cerises, des produits transformés, je pense au marasquin par exemple.
Le marasquin, le kirsch, le guignolé, je vous en parlais tout à l'heure. On en fait des apéritifs, on en fait aussi des expressions. La cerise sur le gâteau.
C'est un peu comme la poire-hier.
Il y a une pelletée d'expressions avec la cerise. C'est absolument incroyable. La cerise sur le gâteau, par exemple, qui est une métaphore pâtissière, qui est très exactement, qui est pas du tout née en France, mais qui trouve son origine dans l'expression anglaise et la traduction littérale de « the cherry on the cake ». Et sa variante, « the cherry on the top », la cerise sur le dessus. On n'a jamais...
C'est quoi cet accent? Where is Jean-Sébastien?
Jean-Sébastien is in the kitchen.
Il est là, hein, il est en place. Parlons de cuisine. La recette du jour, c'est le vrai clafoutis limousin.
Oui,
à retrouver sur rtl.fr.
Très facile, hein, vraiment. 10 minutes de préparation. Hein.
Vous nous en direz des nouvelles.
Oui,
3210,
oui, j'ai compris le message.
3210 par téléphone, le standard RTL est ouvert. Tiens, si vous avez des spécialités locales, régionales, des petits trucs qui n'appartiennent qu'à vous, que vous avez envie de tester les connaissances de Jean-Sébastien et de Nathalie, n'hésitez pas. Par SMS également, ça fonctionne, 64 900 avec le mot régal. Venez leur poser des questions. Tenter de les coller, ça vient de commencer. Karen vient de se manifester, peut-être qu'on en parlera dans quelques minutes. Je rappelle que pour ceux qui sont sélectionnés, il y a des guides du routard et des montres RTL à gagner. A tout de suite, c'est RTL vous régale.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Bonne fin de matinée, vous écoutez RTL, RTL vous régale jusqu'à midi et demi, nous sommes en direct et je vous rappelle qu'au 3210, c'est ce que je viens de vous dire, vous pouvez tenter de coller nos amis Jean-Sébastien et Nathalie, c'est ce que va tenter de faire Christiane. Bonjour Christiane.
Bonjour Jean-Michel.
Et bienvenue
bonjour
sur RTL.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Christiane.
Alors Christiane, elle vient du Nord, hein. Vous êtes à Maubeuge ce matin ?
Oui, à petit village à côté de Maubeuge qui s'appelle Asvent.
Alors on va y retourner tout à l'heure chez vous, parce que dans le carnet d'adresses d'RTL vous régale, on vous parlera de maroilles aujourd'hui.
Oui, le maroilles.
Que vous trompez dans le café d'ailleurs, je pense. Hein, non mais c'est vrai.
Je crois pas que ce soit très bon.
Non mais ils en font des tartines de maroilles comme ça, trempées dans le café, c'est une tradition du Nord. Christiane, quelle est votre question ?
Ben moi, je voulais savoir si vous saviez ce qu'était une cornue.
J'ai une petite
alors,
idée.
Alors c'est une très très belle gamme de cuisinières made in France. Très chère la cornue, mais absolument remarquable, hein, parce que ça fait partie des meilleures.
Christiane, est-ce qu'on peut leur donner un indice ? C'est quelque chose qui se prépare le 11 novembre.
Oui, voilà. C'est
le 11
ça.
Novembre.
Ouais, je ne sais pas pourquoi, on va peut-être nous l'expliquer après.
Nathalie. Le 11 novembre.
Alors, j'avais pensé, mais je ne suis pas sûre du tout.
Bah, je pense qu'on pense à la même chose.
Bah, je ne sais pas quoi une vous brioche. Pensez. Oui, une sorte de brioche, mais ouais. En forme de triangle, non ? C'est pas ça ?
Non, c'est pas ça, non.
Parce que moi, je connais la cornue
c'est
dans
pas...
le...
C'est un chausson.
Une brioche dans le Limousin qui s'appelle non. La cornue, mais c'est préparé pour Pâques, plutôt.
Oui,
il n'y a pas des petits grains de sucre dessus
Ça, c'est la brioche limousine, me semble-t-il.
Comme sur les chouquettes, non ? Du sucre gros grain, il n'y a pas du tout.
C'est moi ou vous êtes à la rue sur ce coup-là ?
Complètement, à rue Michel.
Alors, on a compris. Christiane, je pense que vous venez de les coller. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que la cornue ?
Bah, la cornue, c'est une tarte à pâte levée et sur laquelle on met des raisinés qu'on a fait macérer dans du rhum avec des morceaux de pommes, des pommes émincées et de la cassonade. De la cassonade, alors, pas de la vergeoise.
Moi, mais c'est du Nord, j'ai jamais entendu
ça,
parler.
Ça ressemble à une tarte ?
Ça ressemble à une tarte et après on remet une fine couche de pâte levée dessus avec un petit trou. Et voilà, on fait ça le 11 novembre, c'est très bon.
Mais alors justement, pourquoi le 11 novembre ?
Ben ça, je ne sais pas. Si
parce que c'est à mourir.
Si il y a un auditeur qui sait, je suis preneuse parce que ça, je ne sais pas.
Eh bien écoutez, on va lancer l'appel à toutes les voitures. Si vous êtes dans le Nord et que vous connaissez la cornue, n'hésitez pas, c'est ça. Si vous pouvez nous expliquer pourquoi ce n'est cuisiné, enfin que
c'est une tourte,
surtout souvent
c'est
le 11 novembre.
C'est une tourte, visiblement.
Tarte ou tourte.
Oui, il y a un
pourquoi
couvercle
le 11 novembre ? N'hésitez pas, 3210 ou SMS 64 900. Merci mille fois, en tout cas,
merci, Christiane.
Est-ce que je peux faire un bisou à ma famille qui est à Saint-Malo ?
Eh bien, c'est fait.
Je vous remercie.
On vous envoie un guide du routard et une montre RTL. Christiane, on vous souhaite un très bel été dans le Nord.
Le grand jeu RTL de l'été.
Et en ligne pour le grand jeu RTL de l'été à 11h33 ce matin sur RTL, voici venir Émilie. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Émilie ?
Ouais, ça va très bien.
Vous êtes à Marseille ?
Oui, c'est ça.
Et écoutez, j'espère que la bonne mère va veiller sur vous une fois de plus et vous permettre de repartir avec un somptueux cadeau dans quelques instants. Est-ce que vous avez entendu ? Vous pouvez nous rappeler pourquoi on va jouer ce matin ? Vous avez le choix entre deux animateurs et surtout la possibilité de gagner quoi ?
Alors, on a le choix entre Jacques Pradel et Caroline Diamant.
Exact.
Et pour gagner, ben, soit un week-end partout, soit un MacBook.
Voilà, on va être tout à fait transparent. On vous a déjà expliqué au standard comment ça allait se passer. Donc, soit l'ordinateur portable MacBook, soit le week-end de détente et de divertissement dans un des casinos et hôtels du groupe Partouche. Je ne sais pas si vous prenez des vacances cet été, Émilie ?
Oui, fin août.
D'accord, destination ?
Je reste à Marseille.
Vous restez à Marseille. Bon, c'est vrai qu'il voilà. Faut le dire, hein, on est bien chez vous. Franchement,
oui.
Il fait beau en plus dans le sud.
Ah oui, il fait très beau.
Ouais, on a une petite pensée aussi pour ceux qui sont dans le sud en ce moment et qui vivent de très très grosses difficultés, je pense au département du Var notamment. Voilà, oui. On a vraiment une pensée pour tous ceux qui sont par là en ce moment, et surtout on peut faire un petit clin d'œil très amical et pour les encourager à tous les sapeurs-pompiers qui font un boulot absolument formidable en ce moment. Émilie, on joue avec qui du coup, Jacques ou Caroline?
Je vais prendre Jacques.
Vous allez jouer avec Jacques Pradel qui va vous permettre de repartir ce matin avec quoi?
Bonjour, c'est Jacques Pradel. Alors, je commence tout de suite par une très bonne nouvelle. RTL vous offre un week-end pour deux personnes dans un hôtel casino Partouche, le lieu idéal pour continuer à profiter de la chance que vous avez aujourd'hui en jouant avec nous. Bel été sur RTL.
Émilie, c'est gagné.
Oui, super, merci beaucoup.
Un week-end en famille, vous allez passer deux belles soirées dans un des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche. On vous offre, écoutez bien, deux nuits, les petits déjeuners, un repas au restaurant et même, mais ça reste entre nous, 30 euros de jetons pour aller jouer au casino. Vous jouez de temps en temps, vous aimez ça le casino?
Ben non, pas du tout, j'ai jamais essayé.
Vous n'avez jamais tenté le coup, et ben voilà, ça va être une vraie grande première pour vous. N'en abusez pas, mais en tout cas, on vous souhaite un très très bon week-end dans ce casino et hôtel du groupe Partouche, grâce à RTL. On s'occupe de tout. On vous embrasse, merci de nous être fidèles et très bel été du côté de Marseille, Émilie.
Ben merci beaucoup. Merci
gros bisous, beaucoup. À bientôt, au revoir. Prochain rendez-vous du grand jeu RTL de l'été, c'est tout à l'heure dans l'été des grosses têtes, vers 16h. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210 ou en envoyant le mot été par SMS au 74 900. Je vous souhaite bonne chance.
Le grand jeu RTL de l'été.
11h-12h30.
RTL vous régale.
RTL vous régale et son association en ce jeudi matin, Cerise et Vanille. Elle est l'auteur de 1001 livres de cuisine.
Non, juste 30.
Notamment sur la vanille. Non, mais vous avez signé des ouvrages
spécifiques
sur la vanille.
Oui, deux sur la vanille, oui, parce que j'adore ça.
Voilà, et donc vous avez vraiment une légitimité pour nous parler, Nathalie Elal, ce matin, de ce fruit d'une orchidée sauvage.
Oui, absolument, c'est un fruit avec une reproduction assez complexe d'ailleurs. Je vous parlais de reproduction ce matin, le cours de SVT démarre. En fait, il y a une membrane qui se trouve entre les organes mâles et les organes femelles de la plante qui va empêcher la reproduction directe, et sans la présence d'un insecte ou d'un petit oiseau semblable à un colibri qui est capable de venir se glisser à l'intérieur de la fleur pour se charger de grains de pollen et de les transporter ensuite sur une autre fleur ou de provoquer le contact avec l'organe femelle, eh bien le vanillé reste désespérément stérile. Alors pour l'abeille, il s'agit d'une espèce particulière qu'on trouve exclusivement, je crois, au Mexique et qui s'appelle la mélipone.
C'est-à-dire qu'après les mœurs sexuelles de la vanille, il y a Derrick, hein, au niveau sur l'échelle de passion. C'est toujours cette technique qui est utilisée de nos jours. C'est l'île de Madagascar qui est le premier producteur mondial de vanille.
Absolument. C'est pas forcément la meilleure, hein, d'ailleurs. Là-bas.
Elle peut être pas mal quand même. Hein.
Oui, elle est pas mal. Ouais. Non, mais dans le registre des vanilles, il y a mieux quand même.
Mais il y a tellement de vanilles différentes. Il y a l'Ouganda, le Congo, la Polynésie.
Qu'est-ce qu'elles ont de différent justement,
Nathalie? C'est des terroirs, la vanille. C'est vraiment des terroirs.
Des goûts différents.
Mais vraiment des goûts, des arômes incroyables. Entre une vanille de Tahiti qui est très florale, très anisée, et une vanille bourbon de Madagascar, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est pas du tout les mêmes.
Et non seulement il y a des terroirs différents, mais il y a aussi des variétés différentes. Vous avez trois variétés de vanille. Vous avez la planifolia qui est celle qui est largement utilisée, hein, c'est la souche mexicaine, c'est celle qui est utilisée. Il y a la Tahitensis qui, elle, est trouvée en Polynésie, en Nouvelle-Guinée et en Indonésie. Et puis vous avez la Pompona.
Oui, mais ça, c'est un peu fadasse. C'est un peu fadasse.
Ça serait doux, ça.
C'est
pomponnette.
L'histoire de la vanille.
Qu'on appelle la vanille banane et qui est d'ailleurs la vanille de Madagascar. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément la meilleure. En attendant, c'est une histoire extraordinaire.
Souvent associée à celle du chocolat, d'ailleurs.
Alors, souvent associée à celle du chocolat parce que les Aztèques et avant eux, les Mayas agrémentaient leur épaisse boisson à base de cacao qui n'a absolument, mais rien à voir avec notre chocolat chaud à nous. D'ailleurs, il y a une expérience qui avait été faite il y a quelques années à l'occasion du salon du chocolat, justement, où ils avaient recréé le chocolat des Aztèques qui était quelque chose de...
C'est rugueux, hein, c'est pas du tout aphrodisiaque, je vous le dis
pratiquement
tout de suite, hein.
Imbuvable, c'est... tellement c'était épicé, amer. Enfin, il y avait quelque chose de pratiquement médicamenteux, hein, dans cette affaire-là. Et puis après, tout change grâce à un jeune garçon qui découvre la méthode pour ensemencer, féconder voilà les vanilles et les orchidées.
Elle est arrivée sur le tard finalement chez nous en Europe.
Oui, un petit peu tard en fait au XVIe siècle, et le premier européen à l'avoir humé et goûté justement dans ce fameux chocolat des Aztèques, c'était un conquistador espagnol qui s'appelait Hernán Cortés. On vient en 1520. Oui. Alors à l'époque de sa découverte, il faut bien comprendre une chose, ça c'est très important, c'est que les épices qui étaient appelées des plantes à parfum, elles faisaient l'objet d'une compétition absolument acharnée entre les grands royaumes, le Portugal, l'Espagne et la France. Tout le monde faisait un commerce incroyable avec tout ça. Et donc, le premier réflexe de ce conquistador, ça a été d'expédier une cargaison de gousses en Espagne à l'intention des souverains. Et là, elle a été immédiatement adoptée, cette vanille, par la cour, mais sans se démocratiser. C'était quand même réservé à l'élite. Et dès le début, on lui reconnaît des propriétés excitante, et puis elle devient surtout indissociable de la boisson qui l'a fait connaître, c'est-à-dire ce chocolat. Mais le chocolat, évidemment, servi à la cour d'Espagne, n'a rien à voir avec le chocolat des Aztèques. Et puis on s'en servait aussi pour une autre chose assez curieuse, c'était pour parfumer le tabac, et on considérait que le tabac, comme la vanille, étaient des plantes médicinales.
Plante médicinale et donc un tout petit peu aphrodisiaque quand même.
Bon, excitante.
Enfin, excitante.
Ce que Balzac a appelé les excitants modernes.
On en trouve partout dans le monde, mais on en trouve surtout sur les îles.
Oui, c'est vrai.
Notamment à La Réunion.
La Réunion. Alors justement, on parlait des différences de terroir de vanille. Par exemple, celle de La Réunion, elle va avoir une texture, la gousse va avoir une texture à la fois grasse et souple. Donc un aspect charnu, une couleur chocolatée assez claire, un arôme suave, mais qui manque un petit peu de puissance. Alors que la Madagascar peut être quand même plus présente, très sucrée, puissamment aromatique, avec des notes de fruits confits. On y trouve du pruneau, de la figue et une certaine rondeur. La Polynésie, c'est très floral. Là aussi, il y a une note de pruneau très caractéristique. C'est vraiment la préférée, la Tahitensis, la polynésienne. C'est la préférée des gourmets. C'est celle qu'utilisent les plus grands pâtissiers. Elle est très, très chère, il faut bien le dire.
Elle est chère, elle est rare. On dit surtout qu'elle est plus forte, puisqu'on raconte qu'une seule de ces gousses a la réputation d'égaler deux gousses de celle de Madagascar.
Absolument.
Déjà parce qu'elle est deux fois plus grosse.
Pas toujours.
Moi, j'ai eu l'occasion de visiter. C'est impressionnant. Hein.
C'est pas la taille qui compte.
Oui,
la puissance du truc.
Oui, on est d'accord. Mais enfin, en attendant, quand vous allez dans une plantation d'orchidées en Polynésie, c'est un truc totalement impressionnant parce que vous avez l'impression de vous retrouver à l'intérieur d'un gâteau. Hein.
D'accord, mais c'est un peu ça.
C'est un concept.
Ah, c'est un concept.
Allez, on va tout vous dire sur la vanille. La vanille en cuisine. Comment choisir vos gousses de vanille? Comment les conserver? On vous donnera une recette que vous allez retrouver déjà sur RTL.fr. Cerise. Vanille, ce matin, c'est l'association du jour dans RTL vous régale.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Merci d'avoir choisi RTL, merci d'être avec nous dans RTL vous régale. En direct jusqu'à midi et demi, cerise et la vanille dont on vous parle, parce qu'il y a mille et une choses à raconter sur cette vanille. Comment on l'a choisie pour bien la choisir, Nathalie?
Alors déjà, plus une vanille est longue, plus une gousse de vanille est longue, et meilleure elle sera parce qu'elle va être plus riche en vanilline. Et en grande et moyenne surface, dénicher une gousse qui dépasse 14 cm, c'est vraiment mission impossible. Elles sont petites, donc pas terribles. Mieux vaut investir dans de la vanille de qualité, donc des gousses plus longues. Mais vraiment, on est sûr que l'arôme sera très puissant. Donc il faut toujours, en tout cas, choisir des gousses qui sont brun foncé, souples et huileuses, et éviter soigneusement celles qui seraient cassantes.
Il y a une hérésie. On voit souvent, vous savez, les gousses de vanille emprisonnées dans des espèces de tubes en plastique, avec une espèce de bouchon.
En liège.
En liège.
Et c'est une erreur. Parce qu'en fait, le liège va favoriser le développement des moisissures. Donc ça, on évite. Et on évite évidemment l'emballage plastique parce que ça laisse passer les arômes et ça fait sécher la vanille. Ça accélère la dessiccation.
Mais elle doit être présentée dans quoi, du coup?
Un tube de verre, c'est l'idéal.
Du verre.
Et si vous l'achetez...
Et pas de bouchon de liège.
Non. Si vous la ramenez d'un pays exotique, d'une île, ce que vous voulez, autant la conserver, par exemple, dans un bocal rempli de sucre en poudre. Vous allez planter vos gousses de vanille dedans et ça va parfumer votre sucre et elles vont se conserver très, très bien. Bien sûr, après, vous les réservez plutôt pour la pâtisserie.
Est-ce qu'on utilise que les graines?
Ah non, bien sûr que non.
Parce que souvent dans les recettes de cuisine, on gratte,
oui, on
la gousse.
Les graines, mais on va toujours faire infuser la gousse avec les graines en général. Et souvent, on peut
l'idée, c'est d'ouvrir la gousse en deux sur sa longueur.
Oui, la gratter.
Et de la gratter un
soigneusement.
Peu. Voilà.
Et l'idée, c'est que si vous avez une gousse très qualitative, donc qui va faire 18-20 cm.
Ce qui est le but, hein.
Oui, vous la coupez en deux, vous n'avez pas besoin d'utiliser toute la gousse. Vous pouvez aussi la rincer, l'essuyer et la réutiliser une deuxième, voire une troisième fois.
Sauf si on l'a coupée en deux et qu'on a retiré les graines.
Évidemment.
Parce que vous savez, ça c'est le grand... Non mais ça c'est aussi un truc d'histoire de vous faire vendre, enfin de vous faire acheter des gousses de vanille.
On vous dit de l'ouvrir.
Bah évidemment, c'est le truc, c'est ouvrez-la, grattez donc le c'est vous savez, vous mettez.
Mais
non,
parce
gousse...
que les pâtissiers font ça aussi, ils grattent désespérément.
Bah oui, non, mais justement, mais c'est on leur a.
On leur vend. Ouais,
exactement.
Vend
alors que vous mettez une gousse de vanille dans du lait, vous la laissez infuser tranquillement dans du lait tiède, ça va vous donner un bon goût de vanille à votre lait. Vous retirez la gousse, vous l'essuyez, puis vous la réutilisez deux ou trois fois. Hein.
Voilà une
astuce. Il y a l'impact des graines de vanille parce que c'est toujours très joli. D'ailleurs, c'est ça qui fait se précipiter les consommateurs sur certaines glaces ou crèmes glacées ou yaourts soi-disant à la vanille. En fait, c'est fait avec ce qu'on appelle des gousses de vanille broyées, épuisées. Voilà. Il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus du tout d'arôme. C'est une arnaque des industriels. Mmh. Ils vont microniser ces gousses en les broyant, etc. Ça fait des petits grains très réguliers. Donc, on se dit que c'est plein de bonne vanille. En réalité, c'est juste des grains noirs. Il n'y a plus du tout d'arôme dedans.
Ça fonctionne bien avec quoi en cuisine la vanille? Moi j'aime ça sur le homard par exemple.
Ah bah vous avez bien raison.
Alors, l'huile d'olive à la vanille avec,
c'est très, très bon. Il y avait un pionnier justement.
C'est bien, c'est pas cher.
Enfin, oui, alors Nathalie, d'accord. Non, mais on peut aussi évoquer de temps en temps des plats un petit peu plus travaillés.
J'entends bien.
Mais c'est vrai que moi qui pense toujours au porte-monnaie des ménagères, j'en sais pas bien raison de le faire remarquer, c'est pas génial. Mais cela dit, il y avait quand même une invention, puisque le pionnier de tout ça, c'est un grand chef malheureusement disparu qui s'appelait Alain Sandereins, qui avait créé une célèbre recette, le homard au beurre blanc vanillé. Sachez que la vanille, ça se marie aussi très bien avec du poulet, avec du rhum aussi d'ailleurs, puisque le rhum a toujours des accents vanillés.
Avec la pomme.
Aussi avec la tomate, pourquoi pas?
Je n'ai jamais essayé. Vanille tomate,
vous penserez à moi.
Ah oui,
toute la journée.
Vous promets.
Vanille et café, la fogato.
Vous savez,
c'est un espresso sur une boule de crème glacée à la vanille. Vanille et châtaigne, je pense. Mont Blanc, ce dessert mythique, crème de marron, crème chantilly, meringue, fond de meringue.
Alors là, attention, je voudrais qu'on sorte tous les warnings, car c'est important, il faut le dire, il faut mettre tout le monde en alerte. Attention aux extraits de vanille.
Oui, absolument. Parce que l'extrait de vanille, bon, c'est obtenu à partir d'un concentré, en fait. C'est un petit peu compliqué, il y a un process industriel. On va infuser des gousses dans de l'alcool froid, on va les rincer dans des bains d'alcool plus légers, on va les chauffer dans des cuves, les distiller. Donc c'est très puissant, ce concentré, qu'on va ensuite additionner d'un sirop de sucre. Mais en fait, le produit va être dilué. Et en théorie, sa couleur varie en fonction de sa qualité. C'est-à-dire que plus il est pur et plus il est foncé. Mais, il y a un mais, c'est l'ajout autorisé de caramel par le fabricant qui va fausser la donne. Donc, il faut bien lire les étiquettes. Et sachez que les extraits qui sont utilisés par les pâtissiers, ils contiennent une moyenne de 200 grammes de gousse par kilo. Ceux des restaurants, 160 grammes. Et ceux qui sont vendus en grande surface et en moyenne surface, entre 40 et 60 grammes par kilo. Donc, on perd. Vraiment, il y a une déperdition. Alors qu'on peut tout à fait le confectionner soi-même.
On fait comment faire du concentré.
Vous allez fendre plusieurs gousses dans le sens de la longueur. Là, pour le coup, il faut gratter un peu. On va les disposer dans un bocal en verre. Vous ajoutez soit de la vodka blanche, soit sans additifs chimiques, ça c'est important à propos de la vodka, soit du brandy jusqu'à ras-bord. Vous bouchez soigneusement, ça vous fait votre concentré.
C'est bien ça. Voilà l'aspect pratique de la vanille.
Du coup, il faut se méfier aussi des petits sachets de sucre vanillé.
Qui n'ont rien de vanillé.
Alors, s'il y en a un... Il y a un fabricant qui fait du sucre avec de la vraie vanille.
Pas de l'extrait.
Mais bon, c'est quand même 98% du marché qui est fait avec de l'extrait de vanille. Et on est exactement dans la
vanilline, en fait, elle est créée chimiquement. Cette molécule en fait qui évoque la vanille, c'est une molécule chimique et qui est d'ailleurs très utilisée en parfumerie. C'est l'instant cosmétique du jour. La vanille est beaucoup, beaucoup utilisée en parfumerie.
Question candide, pourquoi est-ce que c'est si cher en fait? Parce que c'est rare?
Parce que déjà, il faut les cultiver, parce que ça vient de loin, parce que ça se cueille à la main, parce que c'est un produit noble.
Parce que ça se pollinise à la main aussi. Et que c'est une vraie... Vous imaginez, c'est-à-dire que là, on est très exactement dans la thématique qu'on a abordée avant-hier avec le miel. Vous avez pile poil l'exemple. À partir du moment où s'il n'y a plus d'abeilles un jour sur la planète, il va falloir qu'on pollinise toutes les fleurs de fruits à la main si on veut continuer à manger des fruits. Donc vous aurez des cerises qui seront à 75-80 euros le kilo, vous aurez des pommes qui seront autour de 50-60 euros et ça va devenir un vrai problème, vous voyez.
La recette du jour sur RTL.fr, du riz au lait de coco et à la mangue.
Oui, ça c'est une parfum recette que j'adore faire, très très facile. Il vous faudra du riz rond, du lait de coco, du sucre et puis encore un peu de sucre en plus pour le sirop, deux gousses de vanille, ça c'est important parce qu'il faut bien renforcer quand même les arômes. Et puis une mangue bien mûre, c'est absolument divin et facile. Allez. Vous le faites en 10 minutes.
Je vous rappelle que si vous avez des recettes, vous n'hésitez pas. 3210 ou par SMS 64 900 avec le mot régal.
Juste une dernière chose sur le riz au lait. Comme on est en plein centenaire de la Première Guerre mondiale, sachez que le riz au lait, j'ai découvert ça en lisant pas mal de trucs. C'était le dessert que tout le monde mangeait sur le front, dans les tranchées. Les colis qui venaient des familles, que ce soit du côté allemand, du côté français, il y avait toujours du riz au lait.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Merci d'écouter RTL, merci d'être avec nous dans RTL vous régale. L'escale de rêve de Jean-Sébastien Petit-Demange, comme chaque jour et en ce jeudi 27 juillet. J'ai presque envie de dire, les cerisiers sont en fleurs.
Oui, je suis un peu comme Jacques Dutronc, je suis un opportuniste, parce que je voulais vous proposer de retourner au Japon ce matin, parce que nous avons parlé de la cerise
évidemment
au début de cette émission. Et s'il est un pays où la cerise est célébrée et célèbre, c'est bien le Japon. Alors, soyons précis, c'est pas surtout le cerisier qui est célébré, la vénération des cerisiers au pays du soleil levant. Moi, m'avait marqué lorsque j'ai découvert à Kyoto le fameux chemin de la philosophie, un chemin, un canal de chaque côté des cerisiers. Au printemps, lorsqu'ils sont en fleurs, c'est absolument sublime. Il suffit d'un coup de vent léger pour qu'ils se mettent à neiger sur ce chemin de la philosophie. Et puis, il y a aussi Maruyama, qui est le plus vieux parc de la ville de Kyoto. Et là-bas, il y a un imposant cerisier pleureur qui est illuminé la nuit. Kyoto, c'est une véritable ville totalement sublime. C'est le Japon abordable, sans être sur Mars ou dans Lost in Translation. C'est une ville à échelle humaine.
J'adore cette musique.
Arigato.
Quelqu'un pour me remettre un peu d'huile chaude sur les épaules, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, c'est l'objet d'une fête dans tout le pays, hein, cette période un peu éphémère.
Mais c'est
les
la fête nationale, les cerisiers en fleurs. C'est un événement qui rythme la vie japonaise. On l'appelle le Hanami. Et les Japonais se retrouvent dans les parcs pour pique-niquer en admirant les cerisiers en fleurs. C'est une coutume qui a été instaurée quand même, tenez-vous bien, au 8e siècle. Alors que le Hanami correspondait à l'époque de la plantation du riz. Les paysans déposaient des offrandes au pied des arbres, buvaient du saké, priant pour que de riches récoltes soient au rendez-vous. L'empereur, les samouraïs et le reste du Japon adopta cette tradition autour des 9e, 10e siècles, ça ne date pas d'hier, donc, et cette fête populaire est devenue une fête nationale à partir du 17e. Mais alors, pour voir des cerisiers en fleurs, il y a plus beau que Tokyo, et cela je l'ai découvert lors d'un autre voyage au Japon.
Alors, où est-ce que ça se trouve? Parce qu'on est suspendu à vos lèvres.
C'est à Nara.
D'accord.
Si vous visualisez Tokyo, Kyoto est à 500 km au sud-ouest de Tokyo et Nara à 50 km au sud de Kyoto. Une toute petite ville, hein, 350 000 habitants, hein, c'est une bricole face aux 13 millions de Tokyo. Mais c'est l'âme du Japon qui est là-bas. On découvre un paysage verdoyant, boisé, des collines douces. Enfin, c'est le Japon qu'on ne connaît pas, nous. Et malgré la quiétude qui règne dans la ville, il ne faut pas oublier que c'est le berceau de cette civilisation, de l'Empire du Soleil Levant, de la religion, des arts, de l'artisanat japonais. Nara, c'est la capitale originelle du Japon. Il y a une kyrielle de temples. Il y a le Todaiji, par exemple, qui est l'un des temples les plus importants du pays, qui date de 750. Et il a pour vocation la protection du pays et la prospérité de la nation. Et sachez que c'est le plus grand édifice en bois du monde. 57 mètres de côté, 50 mètres de haut. Les charpentiers japonais étaient des génies absolument hallucinants.
Très bien, mais les cerisiers dans tout ça?
Alors, il faut se rendre sur une colline à quelques kilomètres du centre, le mont Yoshino. Pour beaucoup de Japonais, c'est le spot rêvé pour s'émerveiller en technicolore naturel, pour vivre un moment que vous ne revivrez jamais dans votre vie, parce que vous imaginez une colline avec 30 000 cerisiers qui recouvrent les flancs de cette montagne. Et là, il suffit justement de ce petit coup de vent pour que les pétales transforment tout le paysage en moins de 20 secondes. On a l'impression d'être dans un dessin animé de Miyazaki ou dans une estampe absolument sublime. On aurait presque le sentiment de faire partie intégrante de cette nature impressionnante de beauté. Pendant un moment, on imagine que le monde n'est que beau. On ne mange plus jamais une cerise comme avant. Et comme disait Prévert, la vie est une cerise, le noyau est la mort, l'amour, c'est un cerisier.
Jean-Sébastien Petit-Demange, quand il cite du Prévert, franchement, prend une dimension internationale. Vraiment, vous êtes presque beau, Jean-Sébastien. Dans quelques instants, le carnet d'adresses d'RTL vous régale. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le dauphin, tous
oui.
les deux, Jean-Sébastien, Nathalie, vous
oui.
savez ce que c'est que le dauphin?
Fromage du Nord.
Exactement, c'est un fromage du Nord.
Moi j'aurais dit le fils du roi, mais...
Affiné au maroilles.
C'est mon côté Stéphane Bern.
C'est un peu puissant. Hein.
On en parle dans quelques instants, on prend la direction du Nord dans RTL vous régale, à tout de suite.
11h-12h30, RTL vous régale.
Je vous l'annonçais tout à l'heure, on va prendre la direction du Nord ce matin dans le carnet d'adresses d'RTL et on va l'ouvrir à la page fromage. Bonjour Romain, Olivier.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Bienvenue,
bonjour,
bienvenue sur RTL. Romain, vous êtes artisan, vous êtes affineur de fromage. Depuis 4 générations, votre famille travaille l'art de l'affinage du fromage. Il faut insister sur le fait justement que vous êtes un affineur et pas forcément un fromager.
Ah oui, c'est une vraie philosophie familiale.
Une vraie nuance.
C'est ouais. une vraie nuance. Enfin, on est un des maillons de la chaîne. Il ne faut surtout pas l'oublier, c'est surtout ça. Dans un monde où on veut aller de plus en plus vite, l'affinage, c'est surtout du temps, de la patience, beaucoup de soins. On récupère les fromages auprès de producteurs qui nous font des petites merveilles, qu'on va recevoir relativement jeunes. Et puis, à travers une mise en situation avec un environnement dans une cave, pour reprendre ce vocabulaire bien habituel chez nous, eh bien, on va apporter des soins pour développer les goûts et les arômes de ces différents fromages.
Alors justement, on connaît le boulot généralement hein, d'un producteur laitier, d'un fromager. On connaît moins le vôtre. En quoi consiste l'affinage d'un fromage? Vous parlez de dispositions particulières, de caves particulières, dans un environnement microbien particulier?
Exactement. La clé de voûte, c'est le milieu microbien qu'on va chercher à constituer, qu'on va chercher à entretenir surtout. Dans chacune de nos caves, on va avoir pour notre part 5 caves parce que 5 ambiances pour des fromages différents. Une dédiée aux croûtes fleuries, tous ces fromages de couleur blanche type Chaourse, Brie, Camembert. Une autre dédiée aux croûtes lavées où là on va avoir des soins particuliers ou avec une solution d'eau salée, une petite pointe d'alcool régionale, eh bien on va venir badigeonner avec un pinceau chacune des faces de ces beaux fromages.
Ce qui est formidable dans votre boulot, Romain Olivier, c'est que en fait vous ne donnez jamais deux fois le même goût à un fromage, pour le même fromage.
Ah, il est déjà au point de départ, on a déjà des fromages différents. Moi, je m'amuse beaucoup avec mes amis du vin. On est tous d'accord pour dire qu'un vin d'une même propriété, qu'à la même appellation, entre 2 millésimes, il est différent. Et pourtant, pour le fromage, on a du mal à comprendre ou à interpréter ou à être sensibilisé au fait qu'on fabrique tous les jours et que du coup, les aléas de la nature vont forcément nous donner des cycles différents.
C'est quoi justement ces aléas? C'est la température? C'est le climat? La météo? C'est quoi?
C'est le soleil, évidemment. C'est une pluie qui va donner une alimentation de la bête qui sera différente et puis donc un fromage différent. Et il faudra que nous, affineurs, on ait la capacité à réguler finalement ces aléas. Je m'explique. Si on a un fromage qui, parce que l'alimentation a été riche, eh bien on a un fromage qui évolue relativement vite, à nous de trouver effectivement une nuance et de le présenter, de le proposer à nos clients plus rapidement. Et c'est pas juste des mathématiques avec un nombre de jours de gardiennage de fromage. C'est moi, surtout pas ça l'affinage.
Moi je me dis, il doit y avoir une magnifique relation de confiance entre le fromager, la personne qui fabrique le fromage, et vous l'affineur, parce que vous pouvez lui flinguer son fromage si vous faites n'importe quoi.
Ah, il nous faut de l'excellent, il faut du très bon pour faire du bon, il nous faut d'excellents fromages, il faut évidemment qu'on soit en synergie. Il y a pas de notre crainte aujourd'hui, si crainte on doit avoir dans notre métier, c'est plutôt de manquer de très bons fromages, évidemment de préférence au lait cru, évidemment avec des races régionales dans l'alimentation pour des races régionales pour avoir un lait et une matière première qui soit d'exception. C'est tout ce travail, on est un peu un hub pour prendre un vocabulaire moderne, on est un peu un lieu, une zone d'échange entre finalement les attentes de notre clientèle et en amont de producteurs qui cherchent à valoriser au mieux leur production et surtout qui se lèvent tous les matins pour poser leur tripes sur la table.
C'est bien de le dire,
ça qu'on défend.
Nathalie.
Oui, bonjour Romain. Je voulais simplement ajouter que effectivement vous êtes dans une zone d'échange et dans la modernité et en même temps paradoxalement vous cultivez je crois la tradition parce qu'il y a beaucoup de fromages. Je connais un peu vos boutiques. Je suis du Nord-Pas-de-Calais. Des fromages donc qui viennent des monastères, je crois.
Il y a la tradition monastique, faut pas qu'on l'oublie au national. Le retour du fromage dans sa forme comme on la connaît aujourd'hui, c'est le XIIIe siècle, c'est l'abbaye du Port du Salut qui donnera le nom désormais à une grande marque
que j'ai citée,
qui s'est développée. Voilà, c'est pas moi. mais ils ont effectivement, on leur doit beaucoup. Et n'oublions pas que si ce sont les moines qui ont relancé cette tradition, le temps et la patience sont des valeurs clés et essentielles pour obtenir un bon fromage, un fromage qui a du goût, qui a son caractère et sa personnalité surtout.
Vous en parlez merveilleusement bien. Moi, j'ai découvert en observant ce que vous faisiez qu'il y avait des choses très réglementées. Par exemple, une mimolette et un brie, je ne vais pas dire qu'ils ne peuvent pas se blairer, ce serait simple, mais ils ne partagent jamais la même cave, par exemple.
Ah, chez nous, ils ne vont pas partager la même cave. On a des croûtes différentes. On en parlait rapidement tout à l'heure. Une croûte fleurie pour ce brie, c'est ce Penicillium candidum, cette flore blanche qui va venir entourer et protéger le fromage naturellement. De l'autre côté, on va avoir une croûte serronnée avec des petits acariens. Allez, faut pas avoir peur de le dire. Des petits artisans qui vont venir creuser cette croûte, mais finalement l'oxygéner, l'aérer et développer les goûts. Ce n'est qu'un travail au service du goût et ça n'est pas une activité juste de gardiennage. Je reviens à ce vocabulaire un peu plus cru.
Parfait. On les déguste avec quoi vos fromages? Avec boisson locale généralement?
Ah, c'est un des accords où on peut pas se tromper en tout cas.
Voilà.
Si on a
un bon camembert de Normandie, c'est quoi? C'est
du cidre fermier du canton de Cambremer. On sera archi local. Mais si on est dans le Nord,
du maroilles,
on prend une belle mousse. Une blonde légèrement ambrée et on peut s'amuser. Il y a beaucoup de brasseries artisanales aujourd'hui qui font de très très belles choses.
Vous allez retrouver les fromageries Romain Olivier dans le Nord, Lille, Cambrai, le Pas-de-Calais ou encore à Amiens, Saint-Quentin. Toutes les infos sont sur notre site rtl.fr. Merci pour ce point affinage qui semblait important. Merci de continuer à nous faire rêver et à nous offrir des produits de qualité.
Et merci d'être passionné comme il
Ça se sent, ouais, c'est vrai. Merci Romain Olivier, bon été à vous.
Merci, bon été à vous.
Romain.
À bientôt.
Alors, on les affine dans nos caves depuis 79. Autant vous dire que
Sont taqués, là.
Ça donne une bonne croûte. Hein.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Dans RTL vous régale aujourd'hui, de la gousse de vanille à la gousse d'ail, c'est un peu l'histoire d'un plat qui nous envoie de l'ail sur la table, c'est l'aioli.
Oui, pas les mêmes arômes, hein.
Ah non,
c'est un peu moins suave,
hein.
C'est un peu plus envahissant quand même. Alors l'aioli, c'est cette mayonnaise provençale, mais qui est aussi un repas complet composé de morue, de poisson de mer, d'escargots petits gris et puis de plein de légumes bouillis. Et c'est vraiment indissociable, il faut bien le dire, de notre patrimoine gastronomique. Et sa force, c'est l'ail, auquel personne ne résiste. Alors, il y a une origine du mot aioli. Ça provient de la jonction entre ail et huile. Et déjà sous l'Égypte antique, eh bien, l'ail est distribué aux esclaves bâtisseurs des pyramides pour leur donner de la vigueur. En Grèce, il sert à doper les athlètes pendant les Jeux olympiques. Mais les Romains, qui méprisaient l'ail, considéré comme trop populaire, en donnaient à leur coq de combat pour redoubler leur force. Ça veut dire que ses vertus médicinales étaient connues de longue date. Mais pourtant, sans les ravages causés par la peste de 1720 à Marseille et dans une grande partie de la Provence, eh bien l'aïoli n'aurait probablement pas connu une si grande popularité. L'usage de l'ail comme assaisonnement et surtout antiseptique notoire s'est en effet largement répandu dans cette région peu après le déclenchement de l'épidémie. Il était d'ailleurs, l'ail, l'un des ingrédients principaux du fameux vinaigre des quatre voleurs. C'était une macération puissante qui était préconisée comme remède souverain contre la peste. Mais revenons un petit peu à notre aïoli, qui commence sa carrière bizarrement le premier jour du carême, c'est-à-dire le mercredi des cendres. À l'époque, je vous parle de l'Ancien Régime, c'est le plat de pénitence par excellence, un plat maigre, bouilli, complet, et petit à petit, il s'impose le soir du Vendredi Saint. Et il sort du placard, ou plutôt du confessionnal, pour s'imposer en ingrédient vedette de la cuisine du Sud. Et c'est l'écrivain Frédéric Mistral, un ardent défenseur de la langue provençale, qui lui donne ses lettres de noblesse en baptisant carrément son journal « L'aïoli », un journal entièrement rédigé en provençal. Frédéric Mistral, c'était un puriste et il ne badinait pas du tout avec la codification de l'aïoli. Je vous le cite. « L'ail donc, finement pilé avec un peu de sel et le jaune d'un œuf lui étant ensuite intimement incorporé, le suc vert doré de l'olive intervient alors, mais avec moult précautions et à tout petit filet, cependant que le pilon de son mouvement giratoire et par son action de malaxage crée la savoureuse liaison, l'onctueuse union. » Alors aujourd'hui encore, il y a peut-être quelques légères variantes qui sont dues à l'approvisionnement en poisson, c'est-à-dire la morue en Provence continentale, le merlan ou la baudroie en Provence maritime et l'anguille en Camargue qui sont tolérées, de même que la présence de la sauce aïoli aux côtés de la bourride, cette variété de bouillabaisse très prisée dans la région de Marseille. Indétrônable et inimitable, le souffle de l'aïoli sur la Provence n'a, il faut bien le dire, d'égal que la violence de certains jours de Mistral. Rien d'étonnant pour une plante dont le jus à lui seul est capable d'émulsionner 3 à 4 fois son poids d'huile.
Il n'existe qu'une radio au cœur de l'été 2017 capable de vous raconter l'histoire de l'aïoli. C'est RTL.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Que retiendrez-vous, que retiendrons-nous de la cerise et de la vanille aujourd'hui? Eh bien que la cerise est un fruit qui rappelle l'enfance. D'ailleurs, Goethe a dit, ce sont les enfants et les oiseaux qu'il faut interroger sur le goût des cerises et des fraises. Que la cerise est le plus sucré des fruits rouges, mais aussi le plus énergétique. Que les queues de cerise sont utilisées pour faire des tisanes. Vous auriez appris sans doute que plus la vanille est longue, plus elle est gourmande et riche en vanilline. Attention aux concentrés de vanille. On le rappelle encore une fois, et aux sachets de sucre vanillé qui sont en grande partie fabriqués avec des extraits de vanille et pas de vanille naturelle. Je voudrais remercier Nathalie Hélal qui reviendra demain avec une nouvelle histoire.
Oui, celle de l'omelette norvégienne. Ça va flamber.
Sébastien Petit Demange pour une nouvelle destination, une escale de rêve.
Et ne surtout jamais oublier que...
Nous chanterons le temps des cerises.
C'est une bonne idée, vas-y, pour vendre la charcuterie et le poivre demain, du coup. Dans un instant, Vincent Parisot pour RTL Midi. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec la même troupe. On espère que vous prenez du plaisir, en tout cas, en ce qui nous concerne. On découvre des choses, on découvre des spécialités locales avec vous. On va au cœur des patelins de France et ça nous fait plaisir de découvrir, notamment aujourd'hui, le nom m'échappe, la cornue. La cornue.
Absolument, ce gâteau de Pâques qu'on fait dans le Limousin avec cette petite brioche qui est aussi un gâteau en forme de triangle.
Je dis ça parce que Jean-Sébastien, vous l'aurez compris, déteste absolument être collé. Il l'a été aujourd'hui sur la cornue du 11 novembre.
Il le sera encore.
Et vous reviendrez demain au 32-10 pour retenter l'affaire. On vous souhaite une bonne journée. Vous écoutez RTL, il est midi et demi.